avec la chanson « Comme d'hab ». Mais comme je vous disais en début d'émission, hier, c'était la journée mondiale de la propriété intellectuelle et j'avais envie qu'on se penche sur cet univers-là. Donc, pour nous aider à mieux comprendre la question de la propriété intellectuelle et les enjeux qui s'y rattachent, j'ai avec moi au bout du fil l'associé de la firme Bereskin & Parr et ancien président de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada, Louis-Pierre Gravel. Salut Louis-Pierre.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Très, très bien, merci. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Ben c'est moi qui te remercie, en fait, d'avoir accepté l'invitation. Puis, je suis content de t'avoir parmi nous parce que je pense que tu es très bien placé pour faire un survol avec nous de cette question-là. Je voulais qu'on commence, pour le bénéfice de tous et toutes, si tu pouvais commencer par nous expliquer, dans le fond, qu'est-ce qu'on entend par propriété intellectuelle, puis en même temps aussi, quel domaine dans lesquels est-ce que c'est quelque chose qui est important?
Oui. Alors, la propriété intellectuelle, généralement, c'est ce qu'on considère comme étant le produit de l'intellect humain. Donc, évidemment, il y a le mot intellectuel derrière tout ça. Mais la propriété intellectuelle ne vise pas à protéger les idées en tant que telles. Hein? Les idées appartiennent à tout le monde. On ne peut pas s'approprier une idée. Je ne peux pas obtenir une protection sur le concept d'envoyer une fusée sur la Lune.
Okay.
Par contre, ce que la propriété intellectuelle vient protéger, c'est l'expression de cette idée dans une forme un peu différente. Donc, quand on parle du droit d'auteur, par exemple, ben, l'idée, c'est d'avoir une histoire, un roman qui suit une certaine trame, mais la façon dont j'ai exprimé cette idée-là par les mots, les paragraphes, les chapitres, ça, c'est protégé par le droit d'auteur.
OK.
Donc, ça, c'est une première forme de propriété intellectuelle. Les autres formes de propriété intellectuelle vont être, par exemple, les marques de commerce. Donc, la marque de commerce, c'est la création d'un lien entre la source des produits et des services et le consommateur sur une identification de la qualité de ces produits-là. Pas nécessairement bonne ou mauvaise, mais juste, on sait, par exemple, quand on va dans un restaurant, on commande une boisson Coca-Cola. On sait à quoi s'attendre. Donc, la marque de commerce peut être un mot, un slogan, une image qui va protéger justement cette association-là. Ensuite, on tombe dans des protections qui sont peut-être un peu plus formelles, comme le brevet ou le dessin industriel, où là, le brevet va protéger une invention. Donc, pas qu'est-ce que quelque chose fait, mais comment est-ce que le produit ou le service ou la machine réalise l'objet qui est fabriqué ou réalisé à la fin.
Okay.
Et finalement, le dessin industriel, qui est un peu l'enfant pauvre de la famille de protection, parce que le dessin industriel vient protéger l'aspect visuel d'un objet. Donc, par exemple, dans le domaine de l'ameublement, par exemple, le dessin industriel est très important, la forme des chaises, la forme des tables, le look visuel d'un sofa. Donc ça, c'est les grands thèmes de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle formelle. Donc, il y a des lois qui protègent et qui expliquent comment est-ce qu'on va protéger ça. Le dernier aspect, c'est le secret industriel, qu'on connaît très bien en anglais sous le trade secret, où ça, c'est une information qui est gardée confidentielle et qui procure à l'entreprise qui la détient un certain avantage économique.
OK. Puis tantôt, parce que là, je vois qu'il y a plusieurs formes, là, justement, sur la propriété intellectuelle. Tantôt, je parlais que tu es l'ancien président de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada. Est-ce que tu peux aussi nous présenter l'Institut en soi, puis quel rôle elle joue au travers toutes ces formes-là de propriété intellectuelle?
Merci beaucoup. Oui, alors l'Institut est un regroupement, c'est une association de tous les gens au Canada qui sont intéressés par la propriété intellectuelle. Alors, à la base, les membres de l'Institut, ce sont des gens qui œuvrent dans le domaine de la propriété intellectuelle, des agents de brevets, des agents de marques de commerce, des avocats ou d'autres professionnels qui vont intervenir pour protéger la propriété intellectuelle, établir des stratégies en matière de propriété intellectuelle, conseiller les entreprises sur l'utilisation de la propriété intellectuelle. Donc, on est à peu près 1800 membres au Canada, à peu près. On a des membres partout au pays. Et le but de l'Institut, c'est d'une part offrir une communauté aux gens qui sont dans ce domaine-là, donc des formations, de la formation continue, l'afflux sur les nouvelles tendances, les nouvelles technologies, les nouvelles lois, les nouveaux règlements. Et on a également un aspect de lobbying auprès du gouvernement, surtout fédéral, pour améliorer la structure de des lois de propriété intellectuelle au Canada. Donc, on parle beaucoup au ministère de l'Industrie, Sciences et Développement économique, ISDE. On va également parler beaucoup à l'OPIC, qui est l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, qui est différent de l'IPIC. Et l'Office, ouais, c'est ça. L'Office, c'est le bureau qui reçoit les demandes d'enregistrement de dessins industriels, va les examiner pour la conformité avec les différentes lois et va ensuite de ça délivrer les titres de propriété intellectuelle.
OK. J'ai une question par rapport à... Parce que tu disais aussi que... T'sais, il peut y avoir des conseils ou peut-être une influence auprès du gouvernement là, par rapport à la structure qu'on peut, comment on peut encadrer la propriété intellectuelle. Puis de plus en plus, dans la société, on parle d'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'avec la propriété intellectuelle, comment on pense ça, l'arrivée de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on a commencé à réfléchir à tout ça?
Ça fait longtemps qu'on réfléchit à ça. Alors, d'une part, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il faut penser qu'il y a des innovations à l'intérieur des outils d'intelligence artificielle. Et ces innovations-là peuvent, elles, être protégées par des brevets. Parce que il y a un mythe qui circule que les logiciels ne sont pas brevetables. Alors, c'est vrai en partie. Les logiciels, en tant que tels, ne sont pas brevetables. Par contre, un ordinateur, une machine, un système qui inclut une machine sur laquelle roule un logiciel pour accomplir un certain résultat, ça fait partie de la matière brevetable.
Okay.
Donc, au niveau de l'intelligence artificielle, il y a la partie de la technologie en tant que telle qui peut être protégée par des industriels. Elle peut être également protégée par droit d'auteur parce que le droit d'auteur s'applique au code informatique en tant que tel. Donc, il y a cet aspect-là. Et ça fait déjà quand même plusieurs années qu'on regarde ça, qu'on essaye de conseiller nos clients et de déposer des demandes de brevets sur des aspects de propriété intellectuelle, qui sont brevetables.
Okay.
L'autre aspect, c'est qu'est-ce qu'on fait avec un outil d'intelligence artificielle qui produit quelque chose?
Mm-hmm.
Est-ce que ce quelque chose-là, que ce soit de la musique, que ce soit un texte, à la limite que ce soit potentiellement une invention brevetable, comment est-ce qu'on gère la présence de l'IA à l'intérieur de cet écosystème-là? Et il y a certains pays qui ont commencé à rendre des décisions sur cette question-là. Il y a notamment l'invention du Dr. Thaler qui a déposé des demandes de brevets en nommant un outil d'intelligence artificielle comme étant le ou la seule inventeur d'une nouvelle brosse à dents, bon, par exemple. Et les demandes de brevets ont été refusées dans plusieurs différents pays parce que les lois sur les brevets telles qu'elles sont aujourd'hui requièrent la présence d'un inventeur humain.
Okay.
Et donc, lorsque on nomme comme inventeur un être qui n'est pas humain, qui n'est pas animé comme un outil d'intelligence artificielle, on ne pourra pas aujourd'hui obtenir un brevet sur cette invention-là.
Okay.
De la même façon, je veux juste terminer avec ça, de la même façon, lorsqu'on parle de photos qui sont réalisées par un outil d'intelligence artificielle, de l'œuvre, des œuvres d'art générées ou des textes, encore une fois, il n'y a pas de droit d'auteur qui peut s'accrocher à la création parce qu'il n'y a pas cette activité humaine derrière tout ça pour la création.
OK. Fait qu'au moins, ça, c'est clair quand même qu'il faut la présence d'un humain, là.
Pour l'instant encore, oui.
OK. Puis je voulais savoir, parce que là, le temps file, il nous reste quand même pas beaucoup de temps ensemble, mais je trouvais ça important là, qu'on se demande, en fait, quels sont les problèmes là, qui existent dans le monde de la propriété intellectuelle, puis aussi les moyens qu'on peut envisager comme individu ou comme société pour se protéger.
Alors, les différents problèmes qui existent au niveau de la propriété intellectuelle, je pense que le premier, c'est une méconnaissance de la propriété intellectuelle de la part du public en général. Les différents gouvernements, dans les dernières années, ont mis en place des stratégies, des mesures pour rehausser la connaissance par rapport à la propriété intellectuelle. Le deuxième aspect, c'est, il ne faut pas penser que tout ce qui est sur la toile, sur Internet, on peut le prendre librement, puis il n'y a pas de droits qui sont rattachés à ça. C'est faux. Il faut, je pense, présumer qu'il y a des droits qui sont rattachés à ce qui existe sur l'Internet. Et à moins d'avoir une permission sous forme d'une licence ou d'une autre autorisation, ben, on n'a pas le droit de réutiliser ce qu'on trouve sur l'Internet.
Okay.
Ça, c'est le tableau de base. Ensuite, si on est une entreprise ou si on est quelqu'un qui œuvre dans un domaine technologique, je pense que le plus gros risque, c'est de ne pas faire des recherches pour voir qu'est-ce qui existe déjà dans le domaine et de faire la recherche et du développement qui, éventuellement, pourrait être considéré comme étant en contrefaçon de quelque chose qui existe déjà. Donc, ça, c'est l'autre chose qui existe.
Puis,
finalement,
Ben, c'est parce que là, il faut qu'on conclue, en fait, Louis-Pierre. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais pour résumer, c'est ce que je comprends, puis ce qu'on peut expliquer au grand public, c'est qu'il y a encore beaucoup de méconnaissance par rapport à la propriété intellectuelle. Puis c'est important de se renseigner avant de se lancer dans une aventure quelconque. Il y a des services qui existent, il y a aussi des moyens de protection, mais ils vont être très personnalisés par rapport à chacun des cas. Je sais que, justement, l'Institut, vous avez un rassemblement d'experts, fait qu'il y a des services comme ça qui peuvent être envisagés, qu'on veut des renseignements. Par contre, c'est des services souvent qui sont monnayables, fait qu'il faut quand même garder ça en tête.
Il faut garder ça en tête et je suggère aux gens qui nous écoutent, commencer à faire des recherches de base. Il y a énormément d'informations qui existent sur la toile. Renseignez-vous un peu, puis ensuite de ça, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel parce que on peut rapidement tomber dans des situations difficiles si on ne fait pas trop attention.
Parfait. Louis-Pierre Gravel, je te remercie énormément pour le temps que tu as passé avec nous aujourd'hui. Un grand merci.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
À toi aussi.